Voix du Partage, une émission de Radio Grand Ciel avec le foyer d'accueil Chartrain et le service diocésain de formation continue.
Chers amis auditeurs, bonjour. Notre émission aujourd'hui va nous amener dans un pays très lointain qui pourtant a grand besoin de notre solidarité. C'est un pays dont on ne parle plus parce qu'il n'est plus sous les feux de l'actualité et pourtant nous ne voulons pas l'oublier. Ce pays, c'est le Tibet. Il vit une situation dramatique depuis 60 ans et pour nous en parler aujourd'hui, nous accueillons deux membres du comité Chartrain de soutien au peuple tibétain. Donc, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Fabry, j'ai 43 ans et je suis adhérente de l'association depuis une quinzaine d'années.
Oui. Alors moi, je m'appelle Edith Lacrin, donc je suis présidente de l'association et je fais partie de l'association depuis 2001.
Alors, on rappelle le nom de l'association, le comité Chartrain de soutien au peuple tibétain. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous avez rencontré cette association ?
Alors, c'était en l'an 2000, il y a eu une exposition à la collégiale Saint-André sur le Tibet. Et j'avais déjà entendu parler de l'association parce qu'il y avait eu un article dans le journal, dans les Courriers républicains. Et donc, je suis allée discuter avec eux, puis j'ai adhéré à ce moment-là. Donc, pendant quelques temps, j'étais juste adhérente. Et puis, depuis 5 ou 6 ans, je suis au bureau avec Edith et Maud, une autre collègue de l'association.
Moi, c'est la même chose. J'ai rencontré vraiment cette association, Comité de soutien au peuple tibétain, lors de cette grande manifestation sur le Tibet à la collégiale en l'an 2000-2001, je ne sais plus exactement. Et c'est là que j'ai adhéré à l'association. Mais disons que mes petites accointances, on va dire, avec le Tibet datent de beaucoup plus loin.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous raconter, nous dire pourquoi est-ce que le Tibet est un pays qui mérite toute notre attention ? Qu'est-ce qui s'y passe ?
Eh bien écoutez, alors le Tibet, donc depuis une soixantaine d'années, donc c'est un pays qui subit une répression terrible de la part du gouvernement chinois. Alors nous on fait très bien la différence entre le peuple chinois et le gouvernement chinois. En 1959, il y a eu donc une grande invasion de l'armée populaire chinoise. Et depuis, la répression n'a fait qu'augmenter. En l'an 2008, il y a eu les fameux Jeux Olympiques. Donc on a espéré un petit changement au niveau de l'intérêt international sur la cause tibétaine. Mais en fait, la répression n'a fait que s'accentuer au niveau du territoire tibétain. Et depuis 2008, le gouvernement, enfin le territoire est devenu un territoire complètement sous la mainmise de l'armée populaire de Chine.
Militarisé, on peut dire.
Comment ?
Militarisé, on peut
dire. Militarisé, voilà, tout à fait.
Oui. Alors, est-ce que ça veut dire que la Chine, qui a une culture différente de celle du Tibet, veut complètement annexer le Tibet ? Voudrait en faire comme un peuple chinois.
Bien sûr, parce que déjà, il y a un intérêt stratégique dans la mesure où le Tibet renferme des trésors sous son sol qui sont incommensurables. Ensuite, il y a un intérêt démographique, puisque les Chinois sont de plus en plus nombreux. Et donc, le gouvernement chinois cherche aussi à pouvoir envoyer ses populations ailleurs que sur le sol réellement chinois. Et puis, il y a vraiment une volonté d'asservir le peuple tibétain et de le chiniser complètement, en niant sa culture, son identité, sa langue.
Donc, le peuple tibétain est opprimé et un gouvernement est parti en exil.
Tout à fait.
Oui, le Dalai Lama a dû fuir le Tibet donc en 1959 parce que la répression devenait trop importante et ses proches avaient eu peur pour sa vie. Donc, il a fui en Inde et il est actuellement hébergé, on peut dire, à Dharamsala, où toute une communauté tibétaine s'est installée. Voilà, tous les réfugiés.
Avec le gouvernement en exil.
Le gouvernement en exil, oui. Mm-hmm.
Et le Dalai Lama est très célèbre, c'est un peu la figure de proue du Tibet. Mm-hmm. C'était à la fois un chef spirituel et politique qui a eu le prix Nobel de la paix. Mm-hmm.
En 1989, oui.
Voilà. Célèbre pour justement sa volonté de résoudre le conflit avec la Chine de manière non violente et de manière dans la philosophie bouddhiste.
Tout à fait. En utilisant donc ce qu'il appelle, lui, la voie médiane, c'est-à-dire surtout se préserver de tout acte de violence. Toujours aller dans la négociation, dans la manifestation pacifique. Donc, c'est vraiment l'héritage du Mahatma Gandhi. Enfin, et puis de la philosophie bouddhiste, bien évidemment, qui prône la non-violence par excellence.
Mais ce n'est pas seulement des valeurs bouddhistes ou pour le peuple tibétain que porte le Dalai Lama. Ce qui est important aussi, c'est que des valeurs universelles qui sont communes à tous les peuples du monde, en fait. Oui. La compassion, la solidarité, le partage.
L'amour.
L'amour, des valeurs humaines.
Bien sûr, oui. Tout à fait.
Alors, une des manières de protester du peuple tibétain actuellement, ce sont les immolations. Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup dans la presse, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, alors ça a débuté, le mouvement des immolations a débuté en 2008 après des sanglantes répressions suite aux manifestations pacifiques des Jeux Olympiques, Edith en parlait tout à l'heure. Et à ce jour, on compte 142 personnes qui se sont immolées par le feu au Tibet ou dans les provinces proches.
Oui.
Et donc c'est vraiment une forme ultime de...
Je trouve pas mes mots. Protestation.
Voilà, de protestation et de... Voilà, pour dire que c'est vraiment le seul moyen qu'ils ont trouvé pour essayer de... qu'on parle de leur cause. Et malheureusement, bah, on voit bien que ça ne porte pas ses fruits jusqu'à maintenant, puisqu'on en entend très peu parler.
Mm-hmm. Alors, pourquoi est-ce que les immolations sont à la fois, j'allais dire, conformes à la culture, à l'état d'esprit bouddhiste, c'est-à-dire pacifique, et à la fois, pourquoi est-ce qu'elles ne correspondent pas à cette... à la spiritualité bouddhiste? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Eh bien, parce que, si vous voulez, c'est un acte ultime, finalement, on peut dire un acte ultime de désespoir.
Oui.
Parce que pour la plupart des immolés sont des moines ou des nonnes, mais pas que. Il y a aussi des personnes de la société civile, mais la plupart sont quand même moines ou nonnes. Et donc, pour eux, s'immoler veut dire porter atteinte à leur corps, à leur intégrité physique, à leur réincarnation même. C'est-à-dire qu'ils choisissent de s'immoler en sachant qu'ils renoncent à des réincarnations futures. Ce qui est pour un bouddhiste vraiment convaincu quelque chose de terriblement terrible. C'est un acte ultime, on peut dire que c'est vraiment un acte ultime.
Et alors, quelle est la position du Dalai Lama par rapport à ces immolations? Il est pour ou contre?
Eh bien, il ne veut se situer ni pour ni contre, ni pour parce qu'il ne veut pas froisser davantage le pouvoir politique chinois, ni contre parce qu'il ne veut pas non plus froisser d'autant plus les familles d'immolés qui sont dans un désespoir incommensurable.
Oui. Alors, ce comité de soutien a pour rôle déjà de parler du Tibet, comme nous le faisons actuellement, pour informer la population. Et puis, vous avez aussi d'autres actions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, alors le principal but de notre association est de trouver des communes en Eure-et-Loire qui acceptent de parrainer un prisonnier d'opinion.
Oui.
On a une correspondante qui nous soumet des cas de prisonniers et si une commune accepte de prendre le parrainage, ils doivent envoyer deux ou trois courriers par an aux autorités chinoises, aux autorités françaises pour demander des améliorations des conditions de détention ou libération du prisonnier. Donc voilà, financièrement, la commune n'est pas sollicitée financièrement. C'est plus dans l'envoi des courriers.
C'est une manière pour une mairie de faire vivre les droits de l'homme, de militer pour les droits de l'homme et de poser, de mettre dans la balance tout son poids institutionnel pour contacter à ce moment-là le Tibet. Voilà. Et est-ce que vous avez beaucoup de communes en Eure-et-Loire qui...
Actuellement, nous n'en avons plus que 5. Oui. À une époque, on en avait beaucoup plus, mais c'est vrai qu'on... Après, il suffit qu'il y ait une personne dans les mairies qui soit partie ou qui s'occupait des dossiers, justement, de parrainage, et il n'y a plus de suivi. Ou alors, à la suite d'une libération de prisonniers, parce que ça arrive que des prisonniers soient libérés, la commune ne réitère pas son parrainage pour X raisons, évidemment, diverses. Hein. Oui.
Mais on peut remercier les communes qui
parrainent
actuellement.
Absolument, c'est Lève, c'est Luisant, c'est Morier, c'est La Framboisière et c'est Damary.
Merci à ces communes.
Voilà.
Et donc, si jamais parmi nos auditeurs, il y a des conseillers municipaux ou des maires qui nous écoutent ou des habitants d'une commune, comment est-ce qu'on peut faire, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce projet, qui peut-on contacter?
Alors, vous pouvez soit envoyer un courrier au CSPT Délégation d'Eure-et-Loire, 34 rue de Vilaine à Chartres.
Donc CSPT, Comité de soutien au peuple
tibétain. Et on a une adresse mail, c'est cspt28@hotmail.fr.
Voilà, on retrouvera ces coordonnées sur le site de Radio Grand Ciel. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit mot pour nous exprimer votre flamme par rapport à ce peuple tibétain, pour terminer l'émission?
Eh bien, on peut dire que c'est un peuple complètement oublié, justement. Mmh. Et c'est, enfin, personnellement, ça n'est pas pour ça que ça me touche particulièrement, parce qu'il est oublié. Mais on y met d'autant plus de conviction qu'on sait que personne quasiment ne s'intéresse à cette cause perdue, on va dire, puisque maintenant, sur le sol tibétain, il y a bien moins de Tibétains que de Chinois. Hein, c'est carrément une invasion totale, quoi.
Moi, il y a beaucoup d'injustice dans le monde. Alors, chacun peut choisir la cause qu'il aime défendre. Et comme disait Stéphane Hessel, indignez-vous et choisissez la cause qui vous tient à cœur.
Merci. J'ai l'impression que vous avez été la voix des sans-voix, là, pendant un quart d'heure. Donc, merci beaucoup.
Merci
et surtout, n'hésitez pas à rejoindre le comité.